Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Ma prochaine invitée s'appelle Aïna Bovel. Pour vous contextualiser l'échange, l'épisode a été enregistré en plein Covid. Vous comprendrez donc qu'une entrepreneure qui a une entreprise de produits de nettoyage s'y rend plein dans l'actu. L'échange se tourne plutôt du côté opérationnel de l'entreprise, mais il n'en est pas moins intéressant. Surtout pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne réellement une entreprise. Alors je laisse place désormais ma conversation avec Aïna. Bonne écoute.
Bonjour Aïna.
Bonjour Simbak.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, et toi?
Oui, ça va très bien, merci. Je suis très contente. En plus, comme je te le disais, j'ai eu très peu de femmes encore sur ce podcast. Donc, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui pour que tu nous parles de ton parcours, de ton entreprise. Donc, je vais, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais d'abord te laisser te présenter, donc me dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites, quelle est l'entreprise que tu diriges aujourd'hui et en quoi elle consiste.
Alors, Tananarive en particulier, c'est une ville très active parce que la plupart des activités, je dirais administratives ou professionnelles ou scolaires, ça se font, se déroulent généralement dans la capitale en Tananarive. C'est une ville très peuplée aussi. Si je ne me trompe pas, lors du dernier recensement général de la population, Tananarive a pris près de 3 millions d'habitants. Et voilà, c'est une ville qui abrite beaucoup de personnes, qui est très active. Il y a aussi beaucoup d'embouteillages, on va le dire très honnêtement. Et voilà, ce qui manque un peu à Antananarivo, en fait, c'est, je trouve que bon, il y a le stress qui est un peu trop présent. Enfin, je l'ai dit qu'il y a trop d'embouteillages aussi et que il y a la plupart des bâtiments administratifs qui sont focalisés, donc qui se trouvent au niveau de la capitale. Donc ça manque un peu de comment dirais-je, d'aération entre guillemets. Et n'empêche, c'est une merveilleuse ville qui ne cesse de nous surprendre par sa beauté et par son originalité. Donc voilà, d'une manière générale, Antananarivo, c'est vraiment la ville des mille, comme on le décrit souvent historiquement.
D'accord. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de vivre ailleurs à Mada? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Tana, qui disent « Non, mais de toute façon, je reste à Tana un peu, mais après, je vais sortir de Tana. » Ou qui disent souvent qu'il faut souvent s'aérer de Tana et voir un peu ailleurs pour prendre un peu d'air. Est-ce que toi, c'est une question que tu t'es posée en grandissant ou même pour le futur de vivre ailleurs, au bord de la mer ou pas d'ailleurs?
Oui, justement, en fait, nous avons pensé en fait à nous installer à Fort Dauphin, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore entamé les démarches nécessaires pour ce faire. Mais, vivre ailleurs, c'est-à-dire hors de Madagascar, on ne l'a pas encore envisagé, très honnêtement, mais vivre en dehors de la capitale et nous installer à Fort Dauphin, c'est un des projets que nous concevons en fait en ce moment même.
D'accord. Et ça, Aïna, ça m'intéresse particulièrement quand tu dis que vivre en dehors de Madagascar, c'est même pas envisageable, c'est pas forcément une hypothèse à laquelle vous avez pensé. Pourquoi, d'où vient le fait que vous soyez si heureux à Mada, ou est-ce que tu penses que voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres pays qui ont qui t'ont donné envie de t'expatrier? Qu'est-ce qui fait que tu restes à Mada?
En fait, moi personnellement, le pays où j'aimerais habiter, en fait, c'est l'Australie. Enfin, j'adore les animaux, j'adore le paysage et tout, mais pour l'instant et pour être très honnête, je ne pense pas encore avoir les moyens de m'installer en Australie. Et pour revenir à ta question, tu sais, ça, à Madagascar, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas vraiment les idées qui manquent et c'est pas les projets qui manquent à Madagascar. Donc, pour l'instant, on a envie de participer au développement de Madagascar à travers notre activité, à travers notre collaboration avec nos compatriotes malgaches aussi, parce que tu sais, l'emploi, ça contribue au développement économique, donc au développement du pays. Donc jusqu'à présent, on a pensé encore à être actif, à rester sur le territoire malgache, et bien évidemment, car comme je l'ai dit, on est encore opérationnel qu'à Antananarivo, mais on pense aussi, on entend aussi étendre les boutiques de Clean Shop Madagascar dans tout Madagascar. En fait, actuellement, on peut livrer à travers toutes les régions de Madagascar, mais on n'a pas encore de boutiques qui sont implantées dans ces régions-là. Donc, pour l'instant, l'objectif à moyen terme, c'est vraiment d'implanter d'autres boutiques dans les régions. Donc, comme ça, les gens pourront faire leurs courses localement et s'approprier, ou comment dirais-je, se familiariser avec le nettoyage et la propreté.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Et justement, sur le thème du nettoyage et la propreté, ce n'est pas forcément un secteur auquel on pense quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Tu vois, généralement, on pense à ouvrir un resto, à faire du service, du marketing, etc. Comment vous êtes tombée dedans? Est-ce que c'était par pure opportunité ou plutôt c'était très bien pensé et vous saviez que vous allez aller dans ce secteur-là? Comment vous avez trouvé ce type de produit?
Alors, c'est une très bonne question et j'apprécie vraiment ça. Alors, au début, c'était donc vers juillet 2019, quand je dis « on », c'est, je parle de moi et de mon conjoint qui avons fondé l'entreprise. Alors, en 2019, vers juillet 2019, on avait dit « allez, on va investir notre argent et on va prendre quel secteur est-ce que nous allons et puis on a fait une sorte de brainstorming, de triage des idées qu'on avait réunies. Et voilà, par exemple, est-ce qu'on va livrer des légumes? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va monter un restaurant? Est-ce qu'on va monter un centre de formation, etc., etc. Alors, on avait pensé, mais vraiment pensé, qu'allons-nous faire avec l'argent que nous avons pu réunir durant tout ce temps? Alors, une idée, en fait, était venue. En fait, on avait vu des stations de lavage un peu partout, puisqu'il y en existe dans les rues de la capitale, un peu partout. Je dirais que c'est pas vraiment des stations de lavage, comment dirais-je, très officielles, mais je dirais un peu dans les petits coins de chaque rue de la capitale, il y a des jeunes hommes qui font le nettoyage des motos, des voitures, etc. Donc on avait vu, tiens, mais ça pourrait être une bonne idée de fournir à ces gens-là des matériels de nettoyage, des produits de nettoyage. Et c'était ça, en fait, l'idée à partir de laquelle on était parti donc pour fonder Clean Shop Madagascar. Et puis, entre-temps, on avait pensé à comment on va vraiment la mettre en place. Et on a pensé à notre organisation, à notre aux diverses démarches qu'on allait adopter, etc., etc. Et d'où donc en janvier 2020, Clean Shop Madagascar était officiellement né. Et puis en mars 2020. Toujours, il y a eu le coronavirus qui a débarqué à Madagascar. Et puis, on a dit, est-ce qu'on va abandonner Clean Shop Madagascar qui vient à peine de décoller, ou on va continuer tout de même? Et puis, on a décidé de continuer et d'inclure aussi la désinfection dans nos activités. Et voilà, jusqu'à maintenant, donc, on est spécialisé dans la vente des matériels et produits de nettoyage et de désinfection. Donc, c'était un peu ça l'origine ou l'histoire de Clean Shop Madagascar.
D'accord. Du coup, le Covid vous a permis de faire une diversification de produits directement après, deux, trois mois après la création de votre entreprise. C'est assez marrant, mais et concernant votre marque à vous, elle est locale, hein, parce que c'est Clean Shop Madagascar, comme tu le dis. Les autres marques sur le secteur en général, elles viennent d'où? Elle est dirigée aussi par des malgaches? Juste pour situer un peu, est-ce que vous êtes les premiers malgaches à aller dans ce secteur? Tu vois, moi par exemple, j'y connais pas grand chose, voire rien du tout. J'aimerais juste savoir si vous êtes vraiment les premiers, est-ce que ça existe déjà, et d'où viennent les autres produits?
D'accord. Alors, j'aimerais apporter un peu d'explication par rapport à la dénomination de Clean Shop Madagascar et par rapport à ses activités. En fait, Clean Shop Madagascar vend des produits et matériels de nettoyage. Donc, nos produits et nos matériels viennent de Madagascar, mais aussi des produits importés. Alors généralement, on a des produits locaux aussi, parce que on peut dire que de ce côté-là, il y a des produits très satisfaisants en matière de nettoyage, de détartrage, de désinfection, etc., etc. Et à part ça, il y a les matériels qui sont importés. Il y a du Kenya, de l'Égypte, etc., etc. Donc, Clean Shop Madagascar, c'est le nom de l'entreprise, mais nous vendons et vraiment. Nous vendons des matériels, des produits de nettoyage, que ce soit qu'ils soient fabriqués localement ou qu'ils soient importés directement de l'étranger. En fait, l'unique critère que nous regardons, que nous considérons en fait par rapport aux produits ou aux matériels, c'est la qualité et la robustesse, la durabilité des produits et des matériels. Voilà.
Et est-ce que l'hygiène et la propreté sont des choses dont les Malgaches ont l'habitude? Est-ce que c'est quelque chose de très accessible déjà pour toute la population? Et est-ce que c'est quelque chose de normal, entre guillemets, d'acheter ce genre de produit, ou tu penses que c'est un produit un peu de personnes un peu plus aisées de la société?
Oui. Alors ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, je ne peux pas généraliser, donc la réponse, je ne peux pas faire une généralité entre ceux qui sont déjà habitués à l'hygiène et à la propreté et ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de nettoyer ou de désinfecter, etc., etc. Ce que je peux dire, en fait, c'est que le coronavirus en soi, vu que c'est un virus qui en fait, il y a eu trop d'idées reçues en fait par rapport au coronavirus. Et à Madagascar, enfin, tout le monde adopte les informations telles quelles. Donc, il fait un temps où on a dit dans les médias, sur Internet, etc., etc., qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait désinfecter à chaque fois qu'on échange de l'argent, à chaque fois qu'on rentre à la maison, etc., etc. Et en fait, c'était à ce moment-là, moi, personnellement, que j'ai pu constater que tiens, les gens s'intéressent finalement à nettoyer ou à désinfecter le lieu de travail, la maison, etc., etc. Et je trouve que c'est devenu une habitude actuellement de nettoyer, d'utiliser. Et en fait, notre mission aussi, c'est pas uniquement de vendre des matériels et de produits de nettoyage, mais surtout d'orienter les gens sur les matériels, par exemple, qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, on apporte un matériel qui n'est pas vraiment d'usage habituel à Madagascar. Il y a les gens qui s'intéressent et qui disent à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Ils essaient une fois, deux fois et puis ils sont rapidement convaincus. Et du coup, on apporte aussi ce genre de entre guillemets, de nouveautés par rapport au style de nettoyage ou par rapport aux produits et matériels de nettoyage qu'on vend. Donc, d'une manière générale, Ça, c'est grâce, je peux dire très honnêtement que c'est grâce au coronavirus parce que ça nous a permis vraiment de repenser à l'hygiène et de reconsidérer, de redonner de l'importance au nettoyage et à l'hygiène qui comme je l'ai dit ça devrait aller de soi, ça devrait même pas être imposé ou être exhorté par l'existence d'un virus pour que nous puissions enfin nettoyer ou protéger, préserver l'hygiène, ça devrait aller de soi.
Tout à fait, mais c'est exactement ce que j'allais te demander. J'allais te demander s'il y avait, parce qu'effectivement, sur ce podcast, comme tu le sais, j'ai pas forcément envie de faire de la publicité aux entrepreneurs ou aux entreprises. Mon objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi on se lance dans ce secteur, qu'est-ce que ça apporte à Madagascar. Et effectivement, je pense que le côté éducatif, et c'est pour ça que je te demandais si c'était quelque chose de normal, entre guillemets, de désinfecter et de nettoyer son chez-soi ou son poste de travail, comme tu le disais. Parce qu'effectivement, je pense que de la part de Clean Shop Madagascar, il y a peut-être un côté aussi éducatif, orientation, produit, explication à faire sur la population et je pense, mais après c'est un avis très personnel, que c'est pas forcément que les gens entre guillemets pauvres qui ne le savent pas, mais je pense que toute personne de n'importe quelle classe de la société peut ne pas comprendre qu'il faut désinfecter, comme tu le dis, même si la crise du corona est passée, et c'est grâce à des marques comme vous qu'on peut comprendre ce genre de situation. Donc c'est vraiment très bien.
Oui, et si je pourrais me permettre d'ajouter enfin quelques mots par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, dans notre boutique aussi, on essaie de vraiment montrer l'exemple, c'est-à-dire à chaque fois qu'on arrive, on nettoie, on balaye, on essuie en fait tous les produits et tous les matériels qui se trouvent dans la boutique. Et à chaque fois que, par exemple, qu'un client passe, on désinfecte l'argent. Par exemple, s'il y a des insectes qui nuisent, on utilise aussi des insecticides, etc., etc. Et en fait, l'insalubrité n'est pas du tout la bienvenue dans notre boutique et on souhaite vraiment que la propreté, que l'hygiène, que tout le monde arrive à s'approprier de la propreté et de l'hygiène comme on déjeune, comme on dort, comme on s'habille, en fait on souhaiterait vraiment que le nettoyage et la propreté fassent partie des besoins fondamentaux, des habitudes, une hygiène de vie normale et saine comme on dit. Et c'est vraiment un de nos souhaits aussi.
D'accord. Bon, en tout cas, c'est très bien. C'est une très belle mission. Pour revenir un peu à Clean Shop Madagascar, j'aimerais comprendre un peu quel est ton rôle, toi, en tant que fondatrice de Clean Shop Madagascar, si tu pouvais un peu nous parler de tes missions, de ton quotidien. Voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement comme travail?
D'accord. Alors, Je vais même te détailler donc les principales missions au sein de Clean Shop Madagascar. Alors, chaque matin, après le réveil, je consulte les boîtes de messagerie de Clean Shop Madagascar, puisque, comme je l'avais dit, nous sommes présents également sur Facebook et sur Instagram. Et il y a aussi des commandes que les gens passent à partir de ces réseaux sociaux. Donc, la première chose à faire, c'est de consulter les messages, et c'est-à-dire de répondre aux clients, de répondre à leurs questions, de confirmer des livraisons, etc., etc. Puis je me rends donc à la boutique, j'organise les livraisons à effectuer durant la journée, et je regarde aussi s'il y a des... Je fais aussi un peu de la gestion des stocks, c'est-à-dire je regarde si nous devrions déjà nous rendre auprès de notre dépôt pour récupérer quelques produits à mettre à la boutique. Et à part ça, j'occupe également le rôle de community manager des pages, c'est-à-dire de la page Facebook et de la page Instagram de Clean Shop. J'interagis directement avec les clients. Il y a ceux qui commentent les publications, il y a ceux qui envoient des messages, etc., etc. Je vais également, donc, dans le cadre de ce rôle de community manager, la création de contenu pour les réseaux sociaux. À part ça, je suis également présente à la boutique en tant que vendeuse et qui interagit directement avec les clients. Et puis voilà, le soir, il faut donc distinguer, il faut voir si on avait cumulé des bénéfices ou des pertes. Il faut voir aussi si jamais il y a moins d'interactions ou par rapport à la page, penser à une nouvelle stratégie de communication. Il faudrait penser à tout ça en fait. Et puis des fois, il y a aussi des gens qui discutent avec nous jusque tard dans la nuit, jusqu'à 22 heures. Et puis en fait, on n'est pas obligé de les répondre, mais en fait, c'est nous qui avons la volonté de les répondre, parce que en fait, nous adorons quand il y a un échange interactif entre nous et les clients. Et généralement aussi, nous n'apprécions pas les faire attendre par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs demandes, par rapport à leurs commandes, etc., etc. Donc, grosso modo, je fais à peu près ça. Et au début, enfin, je partage un peu. Au départ, c'était un peu dur. J'ai failli craquer parce que c'est vrai, ce n'est pas du tout une mince affaire en fait, puisque à part Clean Shop aussi, je gère la maison. Voilà, donc au départ j'étais presque épuisée tous les jours, mais après ensuite à force de m'y habituer, je dirais que c'était devenu une sorte d'habitude, de passion. Plus, et faut pas oublier d'ajouter beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Donc, moi, j'apporte tout mon amour pour Clean Shop Madagascar, et toute ma joie et toute ma détermination, toute ma passion. Donc, du coup, la fatigue, elle passe, mais elle ne reste pas longtemps. Donc, voilà. Quand on fait un truc aussi de manière très joyeuse, on n'est pas fatigué, mais on est joyeux, on est tout le temps actif et on est dynamique, et on a tout le temps envie de faire telle ou telle chose, et voilà. Donc là aussi, un des messages que j'aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment de nous impliquer et de donner tout notre amour, toute notre joie de vivre dans tout ce que nous entreprendrons. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à nous épanouir, et on voit directement qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment gérer les clients, comment gérer les commandes, etc., etc. Donc, en fait, il ne suffit pas de nous figer uniquement sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vente, bénéfice, vente, perte, etc., etc. Mais il faut également cette sorte de souplesse qu'il faut nous accorder, cette passion, cet amour, cette joie. Et voilà, je crois que ça aide aussi dans tout le travail en général.
Non, mais tout à fait, je pense que t'as tout à fait raison, et j'ai mille et une questions après ta longue tirade, parce que justement je voulais parler du rôle de la femme quand on a à la fois un foyer à gérer et une entreprise à gérer. Donc je voulais savoir déjà, à Madagascar, est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête d'entreprises comme toi, que ce soit des petits business ou des grands, et est-ce que tu as facilement trouvé ton rythme de vie, justement, quand tu dis gérer à la fois la maison et le travail, est-ce que ça a été facile pour toi de gérer les deux?
Oui. Alors, pour la première question, oui, c'est il y a beaucoup de femmes qui se trouvent déjà dans le secteur entrepreneurial ou qui commencent à entrer dans ce secteur. J'ai même une amie qui est très active, donc, dans ce qu'elle fait, et elle aussi, elle exhorte les gens, les femmes à entreprendre. Et puis, il y a des petites formations aussi à Madagascar, enfin à Tana, qui sont disponibles aux jeunes qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent lancer leurs entreprises. Et en fait, le petit problème, en fait, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas les idées ou les projets qui manquent à Madagascar, mais il y a des petites péripéties qui entrave un peu considérablement à l'entrepreneuriat des jeunes, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, je dirais que, enfin, une de mes qualités aussi, c'est de m'adapter rapidement aussi aux différentes situations. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, au départ, c'était vraiment la fatigue, la frustration, la nervosité tout le temps, la phrase du genre j'ai l'impression de tout faire, ça sort tout simplement comme ça, et ça provoque aussi des querelles au niveau du couple, etc. Ça te rend frustré par rapport aux gens, tu te mets facilement en colère, et puis quand tu repenses à ce que tu devrais faire aussi à la maison, il ne manque plus que ça pour t'écrouler. Mais donc, comme je l'ai dit, il fallait tout simplement Et il faudrait commencer à ne pas s'énerver tout d'abord, et puis faire les choses telles quelles, c'est-à-dire ne pas trop planifier, ne pas trop penser, en fait, il faudrait déjà, dès le matin, dès qu'on se réveille, planifier ce qu'on allait faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la journée, se fixer des objectifs, et puis ce qui se trouve pas dans ces objectifs-là, dans ces objectifs, on les élimine et on essaie de faire, on fait en sorte d'atteindre les objectifs. Donc voilà, pour ce qui est de ma part, il y a aussi des aléas. Il y a, par exemple, non seulement je gère Clean Shop Madagascar, mais aussi il y a des gens, par exemple, qui m'appellent à prester en tant que maître de cérémonie, à réaliser la conception graphique de tel ou tel document. Donc, en parallèle à Clean Shop Madagascar, il y a aussi ces petites activités, il y a aussi la maison, comme je l'ai dit. Donc, il faut vraiment un grand courage et aller de l'avant. Et voilà, faut pas abandonner surtout, et faut pas se laisser faut pas se laisser entraîner dans la fatigue et la frustration et la colère.
D'accord. Et ma dernière question avant de passer aux dernières questions du podcast, c'était de savoir, est-ce que, c'est une question un peu indiscrète, donc tu me dis si Si tu ne souhaites pas y répondre, tu peux tout à fait me dire non, Saint-Bach. Est-ce que ça a été un problème vis-à-vis de ton mari ou vis-à-vis de la société malgache, le fait que ce soit une femme à la tête de l'entreprise et que finalement ton mari soit en deuxième position au sein de Clean Shop Madagascar?
Non, en fait, ça n'a jamais été un problème pour personne. Et personnellement, c'est et pour ce qui est de ma part, en fait, c'est en ce qui me concerne, c'était vraiment mon conjoint qui a dit « Allez, c'est toi qui vas gérer notre entreprise, etc. etc. » Donc, pour nous, il n'y avait aucun souci à ce que je sois la dirigeante ou à la tête de Clean Shop Madagascar. C'était même un coup de pouce de sa part. Et voilà, j'ai accepté aussi parce que c'est notre entreprise. Je ne pouvais pas dire non ou déléguer sa gestion à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je me suis dit, d'accord. Et lui, d'ailleurs, il me soutient toujours dans tout ce que je fais. Et dans les décisions qu'on devrait prendre dans la gestion, dans la communication, il n'hésite pas à donner son avis, il n'hésite pas à donner des conseils et surtout il n'hésite pas à donner tout son soutien. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que c'est encourageant et ça ne fait que m'épanouir. Donc, pour ma part, ça se passe très bien.
D'accord, bah c'est super. Non, mais c'est un très bon retour parce que généralement, quand on voit des couples travailler ensemble, déjà c'est pas toujours facile au quotidien et on a toujours cette question de savoir qui a le poste un peu plus supérieur, qui gagne le plus, etc. Enfin, tu vois, il y a toujours cette question de la femme qui est un peu remise en arrière-plan et je trouve ça intéressant de montrer aussi que parfois ça peut très bien se passer quand c'est la femme qui dirige l'entreprise. Donc merci beaucoup pour ton retour.
Oui.
Pour
à part ça aussi.
Dis-moi.
Oui. En fait, je voudrais ajouter une toute petite chose par rapport à ça. En fait, c'est quand on dirige une entreprise ou quand on est dans un couple. En fait, il faut tout simplement oublier l'ego parce que ça sert à rien et c'est généralement un problème d'ego qui crée en fait tous ces problèmes de perception, de considération et voilà. En fait, les hommes et les femmes devront travailler, devront collaborer facilement et oublier un peu le problème d'ego. Je trouve aussi que voilà, il faut dépasser son ego, il faut tout simplement penser au développement de son entreprise et surtout au développement personnel par rapport à son entreprise. Donc voilà.
Tout à fait. Merci beaucoup pour cet ajout, Aïe. Pour terminer, j'ai trois petites questions pour toi, trois petites questions rapides. La première, d'accord, on en a un peu discuté, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore à Madagascar et que tu n'as pas quitté le pays?
En fait, je n'ai pas du tout pensé à quitter le pays, en fait, c'est-à-dire à vivre ailleurs. Ça ne faisait pas partie de mes plans ou de mon plan actuel. Je voyage, certes, mais rester à l'étranger, je trouve que je suis pas encore prête, en fait, pour ça, très honnêtement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a les moyens qu'il faudrait considérablement réunir pour pouvoir m'installer définitivement à l'étranger. Tant que jusqu'à maintenant... Je suis à Madagascar, l'entreprise est basée à Madagascar et voilà, pour le moment, je reste à Madagascar.
D'accord. Ma deuxième question, c'est quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar?
Alors, je trouve que c'est un peu une... Enfin, je trouve que les réponses vont être subjectives et relatives, mais pour ma part déjà, d'abord, il faudrait penser à entreprendre d'abord. Ce n'est pas parce que je dirige l'entreprise que forcément je soutiens cette idée-là, mais en fait, ce qui nous empêche aussi de nous épanouir à Madagascar sur le plan professionnel, par exemple, c'est le problème au sein des entreprises, diverses entreprises. Il y a des gens qui sont presque, qui connaissent presque le burn-out, etc., etc. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'épanouir au travail parce que déjà, ils ont peur de leur supérieur hiérarchique ou ils ont peur de commettre des erreurs ou ils ont peur d'être reprochés par rapport à telle ou telle décision ou par rapport à tel ou tel acte qu'ils ont pu faire. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, ça ne devrait même pas être. Ça devrait être facilité. Et on devrait orienter plus les jeunes à créer des entreprises et donc ultérieurement à créer des emplois comment dirais-je, que de mettre dans la tête des jeunes c'est-à-dire à faire des études très dures et puis à devenir fonctionnaire ou travailler pour une entreprise. Je ne dis pas que être fonctionnaire ou travailler pour une telle ou telle entreprise, ce n'est pas très bien, je ne dis pas ça, mais je trouve qu'il faudrait adopter une éducation financière et qu'il faudrait également forger déjà les jeunes étudiants ou les jeunes gens à monter leur entreprise et à les soutenir, bien évidemment, quand ils ont une idée et non pas à les blâmer ou à les critiquer ou à les décourager. À part ça, je trouve également que pour avoir une vie très épanouie, et c'est très personnel, il faudrait avoir la joie de vivre. Il ne faut pas que nous soyons englués ou engrainés dans des problèmes quotidiens de la vie et puis se laisser éteindre la joie de vivre. Parce que je constate ça, je constate ça chez la plupart des gens qui travaillent et ils oublient en fait de vivre, ils font tout simplement la routine, ils vivent une routine dure et très très dure et ils oublient la joie de vivre. Donc à Madagascar, il y a des problèmes, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier de vivre ou de ne pas avoir la joie de vivre. À part ça aussi, peut-être rire beaucoup et peut-être aussi faire de la méditation. Je sais pas si c'est très subjectif comme réponse, mais voilà, je trouve que voilà, il y a des gens qui oublient d'être joyeux, qui oublient d'être bien dans leur peau, qui oublient qui sont-ils, voilà, et qui se laissent tout simplement entraîner par les problèmes de la vie. Donc, voilà, des petits conseils de ma part.
Non, mais c'est très bien. C'est exactement ce que je cherche à avoir, bien sûr, avec cette question. C'est des réponses totalement subjectives parce que finalement, ce qui peut te rendre épanoui peut ne pas forcément l'être pour moi. Mais j'estime que quand même, en étant basé à Madagascar, on a quand même une vision de la vie, la vraie vie à Madagascar, qui te permet de donner tes conseils finalement pour être épanoui. Et la dernière question, Anne, c'était si tu avais un message à partager, quelque chose à dire, un thème qu'on n'a pas forcément abordé ou sur lequel tu voudrais insister, c'est ton petit moment où tu peux dire aux auditeurs ce que tu as sur le cœur.
D'accord. Alors, je souhaiterais donc rappeler, ou peut-être, enfin, je souhaiterais juste dire aux gens que quand on veut faire quelque chose, il faudrait trouver les moyens pour le réaliser et non pas trouver des excuses parce que vraiment les excuses ça ne nous fait pas avancer mais vraiment ça ne sert à rien du tout. Et sinon je réitère qu'à Madagascar, ce ne sont pas les idées ou les projets qui manquent, mais il y a juste il y a des améliorations à apporter. Par exemple, l'accès à l'électricité et à l'eau potable qui est très difficile aussi. Et ça, en fait, ça décourage les investisseurs qui souhaiteraient investir à Madagascar. Il y a aussi l'accès aux fonciers, la lourdeur fiscale, les procédures, etc. En fait, il y a toutes ces péripéties ou comment dirais-je, il y a toutes ces entraves qui empêchent vraiment aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat ou d'investir à Madagascar. Et sinon, à chaque fois qu'on fait une chose aussi, on sera confronté à des problèmes et à des obstacles. S'il le faut, il faut faire une pause, mais il faut jamais abandonner. Donc, en gros, c'est ça. Et surtout, je réitère qu'il faut avoir la joie de vivre et la passion. Il faut mettre tout notre amour dans ce que nous faisons. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, Saint-Batch. Le petit message que je souhaite transmettre aux auditeurs.
Bah c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aïn. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve que c'était une thématique très intéressante sur laquelle on ne parle pas beaucoup, au-delà de l'entrepreneuriat et du féminin. Je pense que l'accès à l'hygiène et le côté éducatif que tu souhaites apporter est vraiment très beau. Donc je te souhaite beaucoup de réussite à toi, à ton mari et bien sûr à Clean Shop Madagascar.
Merci encore Saint-Batch pour ton invitation. Merci de m'avoir permis à témoigner et aussi à partager un peu mon quotidien par rapport à Clean Shop et en tant que femme aussi. Et j'espère vraiment que mon témoignage va inspirer d'autres femmes ou d'autres jeunes gens aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat et à aller de l'avant, à ne pas se décourager par rapport aux aléas de la vie ou aux différents problèmes qu'ils vont rencontrer, bien évidemment, dans ce qu'ils font. Donc, merci à toi et merci également à nos auditeurs qui étaient là depuis le début.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.